Exode chapitre 17. Alors, l'histoire, c'est la suivante. Israël est sorti d'Égypte, de l'esclavage, sous la conduite de Moïse. Il y a d'énormes miracles qui se sont passés. Les 10 plaies en elles-mêmes sont d'énormes miracles. L'ouverture de la mer est un énorme miracle. Si nous, on le voyait, on serait vraiment choqués de la grandeur de Dieu. Nous, on n'a pas vu ça. Eux, ils l'ont vu. Il y a eu un grand miracle aussi, c'est le feu qui éclairait la nuit pendant qu'ils marchaient. Un autre miracle, c'est la nuée qui les couvrait pendant le jour pour que l'ardeur du soleil ne les touche pas. Voilà ce peuple qui marche dans le désert et tout d'un coup ils ont soif parce qu'il n'y a pas d'eau. Et malgré les miracles grandioses qu'ils ont vus, ils ont cherché querelle à Moïse. Et ils lui ont dit, mais pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? On avait de l'eau à boire. Et Moïse va devant Dieu et lui dit, mais Seigneur, ils vont bientôt me tuer. Ils n'ont pas d'eau, ils vont bientôt me tuer. Dieu dit à Moïse, prends ton bâton et appelle les anciens. Va jusqu'au rocher d'Horeb. Ils sont allés, tous les anciens du peuple. Il me semble qu'il y en avait 70. 70 anciens, avec le bâton de Moïse. Et Moïse a frappé le rocher. Et l'eau a coulé. J'y ai trouvé un énorme encouragement pour le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse a nommé ce lieu Massa et Meriba. Massa veut dire test, épreuve. Donc le peuple est passé par un test. Et le deuxième mot, c'est Meriba. La traduction, c'est querelle, dispute, contestation. Le peuple est passé par un test, il a échoué au test. Pourquoi? Parce qu'il a voulu faire mourir Moïse. Parce qu'il n'a pas cru en la grandeur de Dieu pour eux, qu'il allait lui donner à boire à ce peuple, dans ce désert. Il paraît que le désert du Sinaï, au pied du Sinaï, c'est un désert, il n'y a pas un arbre. C'est sec par-dessus tout. Le Sinaï est exactement comme le désert, sec. C'est une vaste montagne. Et le nom de cette montagne, c'est aussi Horeb. Il y a deux noms. Et alors, pourquoi c'est important tout ça? Parce que au moment où Dieu a dit à Moïse, prends ton bâton et va frapper le rocher, eh bien, c'est une préfiguration de ce que Christ a fait pour nous. Qui a été frappé pour nous? C'est bien Jésus. Dieu a frappé le rocher. Pourtant, le peuple avait échoué. Il était dans l'incrédulité. Pourtant, ce peuple était en train de contester et même avait des désirs meurtriers. Malgré tout, on peut voir un acte qui vient de Dieu, qui dépasse notre compréhension. C'est que lors même, écoutez bien, lors même qu'on a échoué, nous, dans notre vie, lors même qu'on a péché, lors même qu'on est dans l'incrédulité, lors même que on ne croit pas aux promesses de Dieu pour nous. Pourtant, il nous les a dit une fois, deux fois, trois fois, 10 fois peut-être, et on les croit toujours pas. Et lors même qu'on est dans cette attitude-là, il a une planche de salut. Rien dans son amour ne dépend de ce que nous faisons pour lui. Est-ce que vous l'acceptez pleinement? Parce que je sais, et parce que je l'ai vécu, que des fois on est triste parce qu'on a échoué. Qui parmi vous est triste parce qu'il a échoué avec Dieu? Oui, vous voyez, ça existe. Mais je pense que tout le monde n'a pas levé la main. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas encore levé la main. Qui est dans la tristesse parce qu'il croit qu'il plaît pas à Dieu? Il faut pas avoir honte, hein, parce que c'est pas un test. Mais je veux vous emmener à un endroit où vous pouvez être sûr que lors même que vous vous déplaisez à vous-même et soi-disant à Dieu, il a en ce moment-là un plan de salut qui dépasse totalement ce qu'on peut faire pour lui ou ce qu'on peut être. Mais totalement. Ce peuple, écoutez, ce peuple, il était dans une désobéissance constante. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, ceux qui ont lu Exode? Constante. C'est un peuple au cou raide. Vous savez, le raide. Non, Non! Des fois, il y a des gens qui sont comme ça. Ah non, tu ne me feras pas plier! Un peuple au cou raide. Pas forcément un peuple mauvais, je dis, hein. Un peuple incrédule. Et Paul, il qualifie de méchant. Pourquoi? Parce que celui incrédule, en fait, il agit par méchanceté envers Dieu. C'est-à-dire qu'il ne croit pas en l'amour de Dieu. Donc, il retourne à Dieu ce qu'il n'est pas. Et ce peuple était comme ça. Et pourtant, Dieu ne dit aucune autre parole que « Amène le peuple, je vais faire couler l'eau, je vais toucher le rocher et du rocher sortira l'eau vive. » Mais c'est exactement ce qui a été fait à la croix. Le peuple entier a amené. Ils étaient tous là en train de regarder. Il y en a qui pleuraient, mais il y en a qui étaient, n'avaient pas des sentiments droits. Eh bien, ce peuple a amené Jésus-Christ à la croix et Dieu a laissé ce peuple tuer ou frapper celui qui pouvait donner la vie. Et parce qu'il a été frappé, l'eau a coulé de Jésus. Cette eau vive a coulé pour nous. Celui qui a du mal à revenir à Dieu quand il a péché, celui qui a du mal à revenir à Dieu quand il a désobéi, celui qui a du mal à revenir à Dieu quand il n'a pas une vie chrétienne exemplaire. Voilà, il se juge, on va dire. Eh bien, Dieu dit, viens, viens, j'ai tout donné, j'ai tout payé. Et j'aime ce chant qu'on vient d'apprendre samedi dernier, grâce sur grâce. Grâce sur grâce, il a tout payé, il a tout donné. Et nous, on veut encore donner quelque chose? Nous, on veut encore plaire? En quoi pouvons-nous plaire? Mais qu'est-ce qu'il y a de bon en nous qui va plaire à Dieu? Qu'il n'y a pas grand-chose d'honorable. On n'est pas des gens faciles, et ça Dieu le sait. Pourtant, il a tout donné. Quand on était à l'enterrement du père de Max et Nicole, je regardais le trou, et ils avaient descendu le corps et le cercueil, et je me suis dit, si j'enterrais un de mes fils, moi, père, dans quel état je serais? Il y a un de vos enfants qu'on est en train d'enterrer. Comment vous êtes dans votre cœur? Dites-moi, vous êtes effondré. Mais plus dur que ça, il n'y a pas. Vous êtes d'accord? Enterrer son propre enfant. Et je pensais en moi-même, si seulement je pouvais être enterré à la place de mon fils. Là, ça me consolerait. Mais réfléchissez, qui a vécu ça? Qui a vécu ce drame? Le Père. Comment le Père a-t-il tout donné à ce point et vous accuserait-il? Puisqu'il a tout donné, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas donné pour votre justice, pour votre joie, pour votre bonheur, pour votre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas donné? Non. Alors changez d'évangile, excusez-moi, parce que celui qui vit dans l'accusation, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'amour du Père. Ce n'est pas possible d'assister à l'enterrement de son propre fils, parce qu'il a donné son propre fils, et de devoir faire quelque chose encore. Ayant tout donné, il n'y a plus rien à donner. Vous pouvez chacun vous mettre debout, là, à votre place, chacun, et dire « Je suis juste. Je suis sanctifié par le Saint-Esprit. C'est en cours dans ma vie que le Saint-Esprit me sanctifie. Je suis pardonné de tout péché. » Si vous ne pouvez pas, c'est que vous n'êtes pas dans l'évangile. C'est le faux évangile. C'est la religion. Changez alors de religion. C'est pas la bonne. Il a tout donné. Quand le peuple a bu l'eau du rocher, qu'est-ce qu'il a donné à Moïse? Il n'y en a pas un qui est venu lui demander pardon. Pas un. Gratuit, gratuit, total. Son amour, l'amour de Moïse était aussi comme celui de Dieu. Il a continué à prier pour ce peuple. Il a continué à l'aimer. Il a continué à le supporter. Et ça lui a même coûté de ne pas aller en Canaan. Vous rendez compte l'amour? Et j'ai trouvé un verset, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué dans la Bible, je vais vous le lire. C'est un verset qui se trouve dans les psaumes que j'ai lu cette semaine. Psaume 71, verset 15. Ma bouche publiera ta justice. Déjà, c'est l'évangile, ça. Ma bouche publiera non pas ma justice, mais ta justice. À toi, mon Dieu. Ton salut, pas mon salut, son salut sur moi. Ma bouche publiera ta justice, ton salut. Écoutez bien maintenant. Chaque jour, car j'ignore quels en sont les bords. Ça vous donne pas envie de pleurer, ça? Je n'arrive pas à connaître les bornes de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'a pas de bornes. Le psalmiste dit, je ne connais pas les bornes. Ça veut dire que son amour est tellement incroyable, dépassant toute compréhension humaine, il n'y a pas de limite et il n'y a pas de bornes. Ça veut dire que dans toutes nos faiblesses, toutes nos incapacités, l'amour de Dieu est toujours le même. Sinon, ce n'est pas l'évangile. Sinon, ce n'est pas la bonne nouvelle. Sinon, c'est la religion. Sinon, c'est une religion de loi. Fais et tu obtiendras. Changez de religion. Je le dis comme ça. Je sais que vous croyez tous en Jésus-Christ. Hein? Je sais. Mais je veux mettre un accent sur la fausse religion devant Dieu. Celle qui veut être juste devant lui par l'accomplissement d'un tas d'efforts, de bonnes intentions, tout ce qui est honorable. Oui, si tu veux plaire à Dieu là, tu peux pas goûter au rocher. Le rocher du salut, il est fait pour les perdus, pour ceux qui juste viennent par la foi. Voilà, le rocher, il est là. Il n'y a pas d'autre rocher. Il est dit dans le psaume 95, « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. » Dans la Bible est précieux, et Max disait tout à l'heure que le Saint-Esprit nous éclaire de manière à comprendre ce qui est incompréhensible par le Saint-Esprit. On a besoin de lumière. Mes frères, on a un plan de salut qui est infaillible. Il n'y a pas de plan numéro 2. Il y a un seul plan et il marche. Et moi, je veux juste dire, là, maintenant, je sais ce que vous allez répondre. Qui veut uniquement aller à Dieu sans les œuvres de la loi, juste par sa foi en ce que Christ a fait? Qui veut absolument prendre cette décision d'arrêter de chercher à plaire à Dieu par des œuvres qu'il n'est incapable de faire d'ailleurs et qu'il va passer des années à vouloir faire sans y arriver? Au lieu d'aller simplement par cette révélation, par cette foi en Christ, que ça y est, c'est fait. Je peux m'exploser en allégresse. Alors, j'ai peut-être posé une question indiscrète. Vous avez le droit de répondre ou pas répondre. Qui a péché avant de venir? Vous n'avez pas besoin de lever votre doigt.
La question serait plutôt qui n'a pas péché
avant. Ouais, merci Daniel.
C'était la mienne aussi.
Ouais. Qui n'a pas péché avant de venir? Qui n'a pas de péché dans son cœur envers son frère, son ennemi, qui est parfaitement blanc? Alléluia! Voilà, et c'est pour ça que la seule joie, la seule satisfaction, le seul bonheur, c'est d'aller tel qu'on est. Mais vraiment, tel qu'on est. Parce que quand il y a le pardon, il y a la réhabilitation totale. Vous êtes d'accord? Le vrai pardon, hein? Le vrai, total. Ça veut dire qu'à ce moment même, le passé n'existe plus. Il est totalement effacé. On n'en parlera plus jamais. Et c'est pour ça que dans la Bible, il dit « J'efface tes transgressions ». Essaie d'effacer un tableau et essaie de lire ce qu'il y avait auparavant sur le tableau. Ça n'existe plus. C'est la même chose. Ça, c'est l'amour inconditionnel, sans limite. Le Père a totalement effacé toutes nos transgressions. Toutes, absolument toutes. Ben moi, c'est dans l'évangile là que je veux vivre. Mes amis, si j'ai fait quelque chose hier, le matin, ce n'est plus là. Ça n'existe plus. Il a été effacé, ce péché. J'ai qu'à le croire. Vous comprenez? C'est ça l'évangile. C'est pas de se rappeler tout ce qu'on a fait de mauvais. Ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est le salut qu'on obtient pleinement et qu'on vit pleinement à chaque étape de notre vie. Est-ce que vous êtes d'accord? la seconde suivante, je vis déjà dans la grâce. Voilà. Et je profite de cette grâce. Et c'est ça le plan parfait. Regardez dans cette histoire de l'Ancien Testament. Il n'y a pas de délai. C'est immédiat. Dieu a dit, frappe le rocher, il va tout de suite sortir de l'eau. Immédiatement, ça s'est passé. C'était dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, eh bien, on est dans le Nouveau. Mais c'est aussi rapide. C'est le même rocher. Jésus, c'est le rocher. De Jésus sort l'eau vive pour nous maintenant. Amen.